Bonjour, vous êtes dans Le Brief, un podcast de Partir d'un point fixe. Dans le train vers la Belgique, j'ai soudain pris conscience que la tannerie Rademaker que je m'apprêtais à visiter avait un siècle et demi d'existence. J'ai visualisé les moments d'histoire extraordinaires qu'elle avait dû traverser. Et de fil en aiguille, je me suis imaginé cette tannerie telle une dame. Une vieille dame digne et gracile. Les apparences sont si souvent trompeuses, n'est-ce pas? Fermez les yeux et laissez-vous guider. Si la tannerie Rademaker était humaine, elle serait une jeune personne agile, gaie et pétillante. Si elle pouvait parler, voici ce qu'elle dirait. Il est certes impoli de demander l'âge d'une dame, mais pas de ça entre nous. Je vous le donne bien volontiers, mon âge. J'aurai 151 ans cette année. Vous trouvez que j'ai une voix de jeune femme? C'est un fait extraordinaire. Plus je prends de l'âge, plus je rajeunis. Si vous me suivez jusqu'au bout, je vous raconterai mon secret. Je suis née à Verviers, à la frontière belge, en 1870. J'insiste sur le terme « naître », car j'ai été une entreprise familiale pendant si longtemps. Notez tout de même qu'en 147 ans, seulement trois messieurs Rademaker se sont succédés à ma direction. À 89 ans, André, sans descendant, a cherché des repreneurs pour pérenniser l'activité. C'est ainsi qu'il m'a cédé en 2016 à Loïc et Nicolas. Au début, j'ai fait quelques concessions. Mais je suis ravie de son choix. Je me sens entre de bonnes mains. À l'époque, comme aujourd'hui, la spécialité était le tannage végétal, mais le slogan de la tannerie, enfin mon slogan si je puis dire, était « Tout est possible ou presque ». On travaillait à la commande selon les souhaits des clients. Du cuir pour l'ameublement, pour l'équitation, pour l'automobile, pour tous les types de maroquinerie, on faisait tout. Pour cela, il y avait beaucoup de foulons dans l'atelier. Un foulon, c'est comme un énorme fût de bière de plusieurs mètres de diamètre. Cette grosse barrique tourne comme le tambour d'une machine à laver. On y met les peaux pour les tanner, les teindre ou les assouplir. Bref, tout était possible, à la demande donc, mais quelle organisation! Il fallait constamment s'adapter car chacun de ces cuirs demande un traitement spécifique bien sûr.
Donc c'était déjà un cuir d'excellente qualité? Mais la répétabilité était plus délicate. C'est-à-dire que pour assurer un catalogue produit avec une teinture, avec un toucher, avec un aspect, avec ce qu'on appelle un prétence, c'est une élasticité, avec une épaisseur constante, donc assurer une répétabilité, on a besoin d'être extrêmement stable dans notre production. Il y a tellement d'inducteurs sur le produit fini, que ce soit l'humidité dans l'air, le jour où on fait le tannage ou la nourriture, que ce soit le volume d'eau, la température d'eau, que ce soit la densité des fibres de la peau brute, que ce soit un peu de creux dans la peau, tous ces équilibres font qu'il faut que nous soyons vigilants sur l'ensemble de ces points pour assurer cette répétabilité. Et donc le fait de mettre 3 peaux en foulon, 30 peaux en foulon ou 100 peaux en foulon, c'est complètement différent. Il ne s'agit pas juste de multiplier par X ces produits de tannage, de teinture ou de nourriture. La formule doit être adaptée. Et donc, on ne peut pas, si on veut faire un cuir qui soit chocolat, un beau chocolat, constant, on ne peut pas faire le jour 1, 20 pots, et le jour 1 plus 10, 30 pots. Il faut qu'on garde un équilibre de minimum de production. Je donne cet exemple parce que les cuirs, quand ils sont en foulon, ils s'entraînent entre eux, ils se frottent, et donc ça chauffe. Et donc ça, c'est lié au poids du cuir, par exemple. Et donc, t'en mets un peu plus, ça va chauffer un peu plus, t'en mets un peu moins, ça va chauffer un peu moins. Et donc, si on veut assurer en fait un catalogue produit avec un comportement constant du cuir, on ne peut pas se permettre d'en faire à l'unité, à la demande. Le client pourra être content une fois, mais s'il recommande la même chose 2 mois plus tard, il n'aura pas le même produit si on procède ainsi.
Après ma reprise en main, Loïc et Nicolas ont décidé de me laisser 2 ans en observation. 2 ans. 2 ans pour bien comprendre mon fonctionnement, la répartition du marché entre artisanat et industriel. Ils m'ont envisagé avec un œil neuf, dénué de jugement. Surtout, il souhaitait apprendre, car il n'était pas du métier.
Là-dessus, on arrivait avec un regard, on va dire, un peu candide ou un peu neuf avec Nicolas sur l'appréciation de la production. Et on a fait le constat qu'on était dans l'artisanat. On n'est pas dans l'industriel. Et fort de ce constat, quand on est dans l'artisanat, ce sont des artisans et non des ouvriers. Néanmoins, il était inculqué jusque-là que chaque ouvrier avait un manager, un chef, un contremaître, qui lui expliquait, voilà, aujourd'hui, il est 8h du matin, maintenant tu vas faire ça, ça et ça et ça, appelle-moi quand t'as fini. Et puis l'ouvrier faisait ça, ça et ça, et il appelait le contremaître lorsqu'il avait fini, en ayant fait au mieux ce que le contremaître lui avait demandé de faire. Et sauf que cette technique-là amenait finalement le savoir-faire des uns et des autres à ne pas trop s'exprimer. Ils étaient là plutôt pour rendre des comptes sur un cahier des charges bien défini. En arrivant dans l'entreprise, d'une part, nous, on n'était pas des sachants en cuir, donc on avait tout à apprendre. Et d'autre part, il nous a paru opportun, à cette taille d'entreprise, hein, qui est une petite entreprise, de permettre à chacun de s'exprimer au mieux. Et donc, plutôt que de lui dire, bah voilà, aujourd'hui, il est 8h du matin, tu dois faire ça, ça et ça, plutôt de lui dire, écoute, il est 8h du matin, voilà ce qu'on a comme commande. Il y a un nouveau projet, un nouveau cuir. Explique-nous comment on peut le faire. Et donc, cette démarche-là est différente parce que ce qu'elle implique, c'est que chacun, déjà, est responsable à son poste. Et donc, il est responsable du livrable, du produit qu'il va fabriquer ou de l'étape de production dans laquelle il travaille. Il est amené à se former, mais il est également amené, en cas de problème qualité, à être responsable de ça et à corriger l'erreur. Dans le mode de fonctionnement précédent, lorsqu'il y a un problème qualité, moi j'ai fait l'ouvrier, sa réaction c'est moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé, point. Et je savais bien d'ailleurs, souvent il y a ce commentaire, et je savais bien que ça allait pas marcher. Et donc cette méthode-là, elle est vraiment intéressante parce que moi je l'appellerais tout simplement une méthode de responsabilisation où chacun est professionnel, responsable sur un périmètre donné. Il est même responsable d'ailleurs de solliciter des formations, de solliciter des fournisseurs aux besoins afin de garantir la qualité sur son périmètre.
D'un point de vue management, je n'ai pas vraiment vécu de rupture, mais plutôt une démarche dans le temps. Certes, pas évidente pour tout le monde, mais aujourd'hui, l'atmosphère de l'atelier est gaie. On a tous envie que l'entreprise grandisse, enfin, que je grandisse évidemment. Chacun croit en ce qu'il fait. Maintenant, chaque artisan parle de moi en disant « c'est ma boîte ». Je me sens alerte comme une jeune personne avec l'expérience de la maturité. L'idéal, non ? Loïc et Nicolas ont aussi profité de ces 2 années d'observation pour étudier les points forts et les points faibles de mes produits. C'est comme cela qu'on est passé de « tout est possible ou presque » à un recentrage des activités sur le cuir sellier, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement équestre. Je me dois de préciser qu'on ne fabrique pas d'articles d'équitation. Nous, on tanne la peau et on vend le cuir. Ensuite, la majorité de nos clients confectionnent du matériel équestre. Notre spécialité a toujours été le tannage végétal pur aniline, c'est-à-dire teinté à travers les pores de la peau. Ainsi, le cuir est très nourri et a une durée de vie très longue. Il a aussi un aspect naturel, qu'il soit souple ou épais. Donc aujourd'hui, 40% de l'activité est dédiée à la maroquinerie robuste industrielle. Cela fait partie de notre modèle économique pour tout dire. On utilise ici, en interne, les cuirs ayant des défauts, appelés les choix numéro 2. L'artisan découpe les parties les moins belles et garde les parties saines pour confectionner des courroies industrielles ou des sacoches techniques. Et donc, si 40% de l'activité est dédiée à la maroquinerie, 60% de l'activité est consacrée au tannage du cuir sellier ou équestre. Je me suis spécialisée dans le cuir souple et épais pour couvrir l'ensemble des besoins de la selle, de cheval et de la briderie. On obtient ainsi une cohérence parfaite de coloris pour la poterie souple et le cuir épais et une performance des cuirs ajustée aux besoins des clients.
Fort de cette spécialité, d'être plus alerte sur les contraintes de nos clients. Lorsqu'un cavalier à cheval fait du saut, le cuir, en fait, à certaines sollicitations. Il faut être sur les concours pour s'en rendre compte, sur les salons. Il faut être vraiment au contact des clients qui nous parlent de leur cavalier. Et nous, on a vraiment cet intérêt-là parce que notre business, il est là-dessus. Si je faisais à côté de l'ameublement ou de l'automobile, bah, je passerais un tiers de mon temps en automobile, un tiers en ameublement. Et donc, ça serait deux tiers de mon temps en moins à moi-même mieux comprendre les contraintes de mes clients celliers.
Côté recherche et développement, voilà comment ça fonctionne. Lorsqu'on souhaite tanner un nouveau cuir pour répondre à un besoin spécifique, le processus de test dure 10 à 11 mois. La peau est tannée pour atteindre l'objectif du client. Le cuir est ensuite monté en selle par ce dernier. Puis, des cavaliers professionnels testent la selle pendant 6 mois. Les échanges avec le client concernant le comportement de la selle sont très réguliers. Au bout des 6 mois, on partage l'analyse. Soit le cuir est validé, soit il est révisé pour faire un prototype ajusté à une production en vie-série. Cela vous semble long? C'est le coût de la qualité. Ma clientèle est aussi exigeante qu'éclectique. Elle vient du Royaume-Uni, de France, de Belgique, de Hollande, d'Italie, d'Espagne, de Suède, d'Allemagne et même du Japon, de la Thaïlande. Le cuir subit également des tests aux UV, à l'élongation, à l'arrachement. Une éprouvette de cuir peut être testée pendant 1000 tours par exemple.
Le cuir, c'est une matière assez subjective, assez émotionnelle. Et le but, c'est de rendre un peu tangible et rationnel certains de ces critères. Donc, c'est des critères partagés avec les clients. On a également des tests de coloris. Ça veut dire que, je reviens là-dessus, hein, mais vu que chaque peau est unique, c'est un challenge en les gardant naturels d'avoir le même coloris. Donc, en fait, on n'a jamais le même coloris, mais on a ce qu'on appelle des master samples. Donc, on a une fourchette basse, une fourchette haute qu'on ne peut pas dépasser, qui est partagée avec nos clients, ce qui nous permet en fait d'être dans le bon coloris à tous les coups.
Et si on parlait enfin du fameux secret de ma jeunesse? En 2016, j'avais encore belle allure. Avec mes vieilles pierres, mon charme d'antan, je plaisais bien, oui. Mais en même temps, j'avais les os qui craquent. 147 ans, ça laisse des traces. Et parfois j'avais des fuites. Comme beaucoup de vieilles personnes. Pardonnez-moi cette révélation triviale. Alors, Loïc et Nicolas m'ont proposé un nouveau départ. Et si on changeait tout? J'ai imaginé un ravalement de façade, mais non. Ils voulaient aller plus loin. Un déménagement. Je me suis ébranlée, mais sans raison. Eux aussi étaient attachés à notre écosystème économique. Nos soutiens de la part de la Banque publique d'investissement locale, des investisseurs et des conseils. Et surtout, ils tenaient aux artisans. Garant et maître du savoir-faire local. Alors, comme personne n'était pressé, nous avons attendu la bonne opportunité. Et elle est arrivée. Nous avons converti un bâtiment de stockage situé à 8 km de l'ancien site en bâtiment de production, avec une super chaufferie et une station d'épuration. Du sur-mesure, en quelque sorte. Et voilà comment j'ai retrouvé une nouvelle jeunesse. J'ai emménagé à Comines avec une garde-robe sur mesure. D'un côté l'atelier et son showroom, hyper lumineux, propre et pratique, et de l'autre le bâtiment administratif. Je suis même devenue écolo, quelle fierté!
Là où je suis fier, c'est que j'ai le sentiment de gérer une entreprise qui a vraiment sa place dans les enjeux sociétaux actuels. Et j'entends par là l'environnement, l'écologie. Et si tu veux, ici, on a la chance de travailler une matière qui est renouvelable, qui est la peau brute. On la travaille de façon naturelle. Avec un matériau renouvelable, donc qui sont les tanins végétaux, qui est ni plus ni moins que du bois broyé en poussière. Et à part la consommation d'électricité, les rejets que nous faisons, en fait, ce sont des rejets naturels et qui sont finalement rendus, une fois qu'on a traité les eaux, les boues sont rendues aux fermiers pour l'épandage des champs. Et donc cet équilibre-là, je le trouve plutôt... Alors on n'a pas un impact neutre, hein, on consomme de l'énergie, mais je pense de façon assez modérée par rapport aux produits qu'on vend. Et du coup, un petit mot, c'est qu'il y a des artisans dans leur garage qui vont teinter du cuir eux-mêmes et qui décrit ce que nous appelons les teintures à l'alcool, qui sont finalement, qui ont une réaction chimique sur les fibres de la peau et donc qui s'imprègnent bien. Et donc, ils vont plutôt favoriser les teintures à l'eau. Et aujourd'hui, les teintures à l'eau ne sont pas tout à fait au point parce que c'est de l'eau. Et en fait, il n'y a pas de réaction chimique sur les fibres de la peau. Donc, le cuir, on applique la teinture à une très belle coloration. mais très rapidement, ça se dégrade. Et le fait de faire ça à l'échelle d'une tannerie nous permet finalement d'avoir un peu de volume au niveau du tannage, au niveau des eaux, et donc d'avoir une teinture qui reste marginale sur l'ensemble du bassin des eaux polluées, et donc qui puisse être absorbée justement par la partie végétale qui, elle, est naturelle. Et donc, on arrive à traiter l'eau proprement, sans rien ajouter, de façon naturelle.
Merci pour votre écoute. Pour vous immerger dans l'ambiance de l'atelier et découvrir comment la peau devient cuir, rendez-vous sur le podcast Dans la peau, métier autour du cuir. Sinon, passez donc nous voir, nous serons heureux de vous accueillir à la tannerie. Vous avez écouté l'histoire de la tannerie Radermaker en Belgique. Pour suivre ses actualités, retrouvez son site internet dans les liens de l'épisode. Un grand merci à Loïc Honoré, le co-gérant de la tannerie, pour ses explications techniques. Cet épisode a été réalisé par Partir d'un point fixe, avec l'aide du Studio Module. La prochaine fois, je vous expliquerai les coulisses de conception et de réalisation de l'épisode. À bientôt dans le brief.